crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
Les regardeurs.
Come and go with me.
Ils ont marqué notre sensibilité en découvrant ou commentant des chefs-d'œuvre qui depuis appartiennent à l'histoire de l'humanité. Ce sont les regardeurs. Aujourd'hui, nous observons ensemble une sculpture, un grand plâtre d'1,90 m de haut environ, réalisé vers 1900 par Auguste Rodin et qui a pour titre, est-ce son titre ? Qui a pour titre pour l'instant, nous le verrons, Absolution. Cette œuvre est exposée au musée Rodin à Paris.
Une main qui se pose sur l'épaule ou la cuisse d'un autre corps n'appartient plus tout à fait à celui d'où elle est venue. Elle et l'objet qu'elle touche ou empoigne forment ensemble une nouvelle chose. Une chose de plus qui n'a pas de nom et n'appartient à personne. Et il est question à présent de cette chose particulière et qui a ses limites définies. Cette découverte est à l'origine de la manière de grouper les formes chez Rodin. Ainsi s'explique que les figures soient liées les unes aux autres d'une façon inouïe, que les formes tiennent ensemble, ne se lâchent à aucun prix. Rainer Maria Rilke, 1903.
Cette fois-ci, juchée sur un rocher de plâtre, une silhouette nue négligemment et partiellement couverte d'une toile, jetée sur ses épaules, dépose un baiser sur la tête d'un personnage plus petit, dont on devine la tête penchée. Mais un regard plus appuyé révèle que cette scène, intitulée « Absolution », est-ce que c'est intitulé par l'artiste ou pas, nous allons le voir, cette scène est composite, et les parties sont associées avec le même élan apparemment désinvolte qui jeta ce drapé sur la sculpture. La tête de la femme est rapportée sans que l'artiste ait cru nécessaire de combler la liaison entre le torse et l'encolure du modèle. La chevelure, elle, est comme arrachée à la terre native dont elle a été extirpée. Et celui qui reçoit ce pardon bienveillant n'est qu'un tronc dont le chef, à peine suggéré, est comme aspiré par l'onction miséricordieuse qu'il reçoit. Il ne touche pas terre, l'artiste ayant négligé de réaliser le bas des jambes, les mollets ou les pieds de ce personnage. Est-ce un enfant ? Est-ce une âme secourue par une intercesseuse qui évoquerait peut-être pour nous le fronton de la cathédrale d'Autun ? En tout cas, l'extraordinaire drapé dont la figure qu'il approche est parée joue ce rôle ascensionnel. Cette simple toile mouillée d'un lait de plâtre, étoffe dont la couleur écrue et blanche semble glisser jusqu'à celui qu'elle pardonne, comme un mouvement de générosité qui ajouterait son impulsion à la bénévolence de la flexion de ce corps penché vers l'implorant. Tout dans ce groupe, relié l'un à l'autre par cette toile fragile que le vent pourrait balancer au loin comme une grâce refusée, tout dans ce groupe allie les destins comme dans le célèbre Laocoon, les corps sont liés par un terrible serpent, et ici au contraire, par les plis réconfortants d'un tissu dans lequel le regard s'immisce.
Une tête n'est pas un corps doté d'yeux et d'oreilles, mais un phénomène corporant, qui a reçu l'empreinte de l'être au monde voyant et entendant. Modelant une tête, l'artiste ne semble reproduire que ce qui est superficiellement visible. En vérité, il donne figure à ce qui est proprement invisible, à savoir la manière dont cette tête regarde le monde, dont elle séjourne dans l'ouvert de l'espace, dont elle est concernée par les hommes et les choses. Martin Heidegger, 1964.
On entendait à l'instant un texte d'Heidegger de 1964, pas à propos de Rodin, mais ça colle, comme on peut dire, à propos du sculpteur Bernard Heilinger, qui aurait bien pu s'appliquer, effectivement, à Rodin. Mais avant de poursuivre, je vous présente notre invité. J'ai la chance, aujourd'hui, d'accueillir Catherine Chevillot, conservateur générale du patrimoine, directrice du musée Rodin depuis 2012, je devrais dire hyperactive. directrice, non ? C'est incroyable tout ce qui se passe en ce moment.
C'est Rodin qui est hyperactif surtout.
Le centenaire lui va bien.
Le centenaire lui va très bien. Puis c'est une période où on peut redécouvrir des aspects qu'on connaît moins de son œuvre.
C'est ce que vous n'arrêtez pas de faire. Je trouve qu'il y a une... Alors, parfois on dit, cet artiste est incroyablement créatif, on ne se rendait pas compte de ce qu'il savait faire, on est en train de le relire. Mais vous n'arrêtez pas de le relire. C'est un angle, un autre angle, une collaboration avec un artiste. Vous sortez un Rodin inconnu sans arrêt.
C'est ça qui est fascinant avec Rodin, c'est qu'on pourrait penser qu'on a déjà tout vu, tout lu, tout compris. Il y a eu des centaines de livres, de colloques, de tout ce qu'on veut. Et je crois que c'est le propre des très très grands artistes que de résister finalement à l'interprétation. Et à chaque génération, à chaque œil de regardeur justement, eh ben, c'est un nouveau Rodin qui apparaît.
Moi, quand je faisais mes études, on parlait un peu de la Porte des Enfers, évidemment. On parlait du Penseur, du Balzac, et puis peut-être du Baiser. Mais ce Rodin était un peu toujours le même. Et quand on vous annonçait une exposition Rodin, on disait, bon, je connais déjà le corpus. C'est les fameuses 100 sculptures et 5 dessins. Et là, ça s'ouvre.
Oui, parce que pendant très longtemps, on a connu Rodin surtout par les marbres et les bronzes. Et donc, c'est effectivement un corpus assez clos, assez fermé, qui s'est répandu jusqu'à présent. Ça correspondait aussi avec le goût du public. Dans l'imaginaire d'un certain public, œuvre aboutie égale forcément marbre ou bronze. Et donc, ce qui n'est pas en marbre ou en bronze est forcément moins intéressant.
Au point qu'à certaines époques, on balançait, si je puis dire.
On balançait
les plâtres.
Le nombre d'ateliers d'artistes remplis de plâtres qui ont été détruits parce que ça prend de la place. C'est très important.
Une chose que j'arrive pas à comprendre, même si on avait un regard un petit peu étriqué sur Rodin, même si des directeurs de musées comme vous avaient ouvert d'autres aspects, les dessins, les tâches, l'érotisme, l'engouement, les plâtres, les terres, les combinaisons, tout ça. Aujourd'hui, nous parlons d'une sculpture de 2 mètres de haut que vous nous dites exposée pour la première fois. Effectivement, je ne l'avais jamais vue. On peut pas trouver, alors que tout est sous vos mains, une nouvelle sculpture en 2017, c'est pas
Alors
possible.
On l'a pas trouvée, on savait bien qu'elle était là, c'était une sculpture qui posait d'énormes problèmes de restauration, précisément à cause de l'importance qu'a pris dans cette œuvre-là le tissu. Et le tissu enduit de plâtre par Rodin. Et le tissu et le plâtre, ça fait pas bon ménage ensemble. Le plâtre se décolle, se déplaque. La sculpture était démontée, on la connaissait par une photographie ancienne.
Parce qu'elle avait été photographiée. Mauvaise.
Elle avait été photographiée.
À l'époque de Rodin,
oui.
Du vivant de Rodin.
Oui.
Station, quelqu'un comme ça.
Station, mais quelqu'un comme ça. Oui, on avait une assez mauvaise photo, faut bien dire, un peu floue, un peu grise. Mais on voyait très bien que c'était quelque chose de fascinant. On voyait par l'importance et la taille. Près de 2 mètres de haut, c'est quand même pas rien, ça se voit quoi, hein, dans la réserve. Et moi j'avais repéré cette œuvre il y a longtemps, lorsque j'étais au service de restauration. On avait fait pour le musée Rodin une étude sur justement comment restaurer le tissu enduit de plâtre.
C'est ce qu'on appelle le lait de plâtre en fait. Hein.
C'est ça.
Catherine, permettez-moi de vous poser une question blasphématoire. Vous êtes sûre que c'est une sculpture que Rodin aurait considérée comme une sculpture de lui ?
Ben Rodin, c'est quelqu'un qui est sans arrêt dans l'expérimentation. On le voit bien, puisque pour les 100 ou 150 œuvres connues et archi-connues qu'on voit partout, il y en a en fait sans doute entre 1500 et 2000 dans le corpus de Rodin. Et cette expérimentation, il l'a fait de plus en plus en plâtre et de plus en plus par assemblage vers la fin de sa vie. Et lui aussi, on lui a commandé d'abord des marbres et des bronzes, mais petit à petit, à la fin de son existence, notamment en 1900, il a fait une grande exposition de son œuvre, en marge de l'exposition universelle. Et là, dans cette exposition, la fameuse exposition du pavillon de l'Alma, il n'a montré quasiment que des plâtres.
L'exposition du pavillon de l'Alma, pour nos auditeurs, c'est une exposition que Rodin a souhaité faire en 1900, à l'occasion, en marge de l'exposition universelle, n'est-ce pas ?
C'est ça.
Et d'ailleurs, qui était très particulière, vous le soulignez dans le catalogue, parce que, et je crois que c'est la première fois, il a voulu que tout soit blanc, comme dans les expositions d'art contemporain d'aujourd'hui. C'est le White Cube, en fait, qu'il invente.
Oui, il a pris aussi des modèles dans les sécessions, notamment les sécessions allemandes, autrichiennes. Mais effectivement, c'était une atmosphère très claire. Et donc, tout était blanc, y compris les œuvres, puisqu'elles étaient en plâtre. Et donc, ça veut dire qu'il a pris conscience à la fin de sa vie, que ces modèles, ces esquisses, ces maquettes qu'il élaborait dans l'atelier, en fait, étaient devenues plus importantes pour lui que le marbre ou le bronze. Et on le comprend très bien parce qu'il a une conception tellement continue de la création que finalement, le marbre ou le bronze, pour lui, c'est presque un arrêt sur image. Mais ça commence bien longtemps avant, ça continue bien longtemps après.
C'est très intéressant ce que vous dites, une relation continue à la création. Essayez de nous faire comprendre ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire que des différents moments de la création, d'une première esquisse à la pierre noire, à une, je ne sais pas, à une photo, etc. Il intervient dessus et il considère comme un flux. C'est un fleuve, en fait, non?
Oui, oui, c'est tout à fait ça. D'ailleurs, on a parlé à son sujet de forme liquide. C'est pas pour rien. Oui, c'est ça. D'abord, lorsqu'il fait une terre, traditionnellement, le sculpteur fait mouler tout de suite sa terre parce qu'elle ne se conserve pas, etc. Donc, on en tire un premier plâtre. Et puis, ce plâtre, on le remoule lui-même. Et lui, en général, il fait pas un plâtre, il en fait 10 d'un coup, par
exemple. Alors, pour qu'on comprenne bien, ce que vous nous dites, c'est qu'avant le plâtre, il y a la terre ou la plastiline ou quelque chose de très ductile, comme ça, qui sur lequel il maintient de l'humidité,
c'est ça.
En mettant un petit peu comme ce que l'on vient
absolument.
De voir, un linge dessus, jeté, et qui fait une sorte de... qui peut faire un chiffon ou un drapé, comme on veut, et qu'il faut remouiller, réhumecter tout le temps.
Oui, il faut maintenir humide, sinon la terre sèche, se craquelle et s'effondre.
Et une fois qu'il est parvenu à un résultat qui lui plaît, il moule cela.
On fait mouler tout de suite
la terre crue
pendant qu'elle est encore humide.
Et ensuite.
Et ensuite, on tire un premier plâtre qui devient l'œuvre originale puisque la terre est perdue dans l'opération, le moule aussi. Ce premier plâtre, très souvent, Rodin fait faire un moule dessus et il le multiplie. Et il en garde plusieurs exemplaires.
Ah, c'est-à-dire qu'il moule la terre et ensuite il moule le plâtre.
Il moule le plâtre.
Et ça veut dire que s'il moule le plâtre, c'est-à-dire qu'il va réintervenir encore dessus.
Ou quelquefois, il fait un moule à pièce, c'est-à-dire un moule qu'on peut réutiliser sur la terre. Ça arrive aussi. Et donc, il accumule en fait une espèce de gisement de forme en multipliant ses plâtres. Et petit à petit, il crée non plus en remodelant d'autres têtes ou d'autres bras ou d'autres figures, mais il va chercher directement les plâtres qu'il assemble. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait étonnant et nouveau.
C'est ce qu'on découvre dans les tiroirs de Meudon. Quand on tire un tiroir, on voit 50 petites jambes, 30 petites mains,
une
etc.
Une espèce de carrière vivante.
Et il fait Frankenstein, quoi.
C'est ça. Hein? Exactement.
Il invente ses monstres, mais il combine parfois avec des choses qui existent différemment. Je vois énormément de figures qui sont des figures qui sortent d'un pot, par exemple.
Oui, c'est extrêmement intéressant parce que c'est presque l'assemblage avant Picasso, avant le verre d'absinthe. Donc il prend des pots qui viennent de sa collection d'antiques. Il avait une collection qui existe toujours dans les collections du musée, 6500 pièces d'antiquités grecques, romaines, asiatiques, égyptiennes, etc. Donc il prend des éléments et il les combine avec une figure faite par lui. Donc il prend un élément qui n'est pas fait par lui, mais qui devient partie d'une de ses sculptures.
C'est un ready-made assisté.
Complètement. Hein?
En fait, comme d'habitude, vous nous faites dériver du sujet, on s'est éloigné, on avait commencé par parler de notre absolution, cette sculpture de 2 mètres de haut absolument incroyable. Alors puisqu'on s'est éloigné, on y reviendra. Je vous propose d'écouter maintenant 2 pensées d'Auguste Rodin à propos des sculptures antiques dont il aime collectionner les fragments. Ça correspond à ce que vous veniez de nous dire et on rebondira là-dessus pour rejoindre cette fameuse absolution.
Maintenant j'ai fait une collection de dieux mutilés, en morceaux. Quelques-uns, chefs-d'œuvre. Je passe du temps avec eux. Ils m'instruisent. J'aime ce langage d'il y a 2 ou 3 000 ans, plus près de la nature qu'aucun autre. Auguste Rodin, lettre à Hélène de Nostitz, octobre 1905. C'est ici l'infirmerie de l'Olympe. Quoique dieu et déesse, toutes ces statues ne sont point irréprochables. Elles ne sont point parfaites dans toutes leurs parties. Ainsi, cette Vénus, radieuse en tout, a pourtant les fesses un peu canailles. Les jambes de ce Mercure, trop maigres, presque rachitiques, sont indignes du messager des dieux. Voilà pourquoi je les fais couvrir de linge. Comme d'ailleurs toutes les parties défectueuses des statues antiques. Je cache ce qui est laid pour mieux admirer ce qui est beau. C'est ce que j'appelle la pudeur. Auguste Rodin, 1916.
Vous êtes sur France Culture, vous écoutez l'émission Les Regardeurs et je suis avec Catherine Chevillot, la directrice du musée Rodin, et nous examinons ensemble une stupeur au fond, une sculpture extraordinairement étrange, et c'est inouï de le penser, révélée pour la première fois en ce moment au musée Rodin, rue de Varennes, et nous essayons de comprendre d'où vient cette sculpture si étrange, si combinée. C'est une combinaison, non?
Oui, c'est un assemblage combiné avec du tissu. En fait, les fragments assemblés viennent de trois œuvres différentes. Il y a un torse qui est un des torse d'Ugolin, la première version d'Ugolin, c'est-à-dire la version assise.
Ugolin qui se trouve, vous le savez, aux enfers pour avoir dévoré ses enfants et qui est représenté dans la porte de l'enfer.
Qui est
aussi une sculpture en soi.
C'est ça. Et donc il avait fait une première version d'un torse assis qui vient de torse antique, sans tête. Il lui a accolé une tête qui, elle, vient d'une figure allongée presque au sol qui s'appelle la martyre. Et une figure, une tête aux yeux clos. Et puis, il est, donc la tête est effectivement pas très bien raccordée au corps. Et puis, monte devant cet être un peu étrange, une sorte de fantôme vertical, qui est en fait une sculpture totalement horizontale, qui s'appelle la Terre. On a un être humain qui s'arrache comme ça à la glèbe. Et donc Rodin la prend, la pivote à 90 degrés et la fait comme monter vers la tête de la martyre qui lui donne un baiser sur la tête, sur le front.
D'où le titre.
D'où le titre Absolution.
Qui est un titre que vous avez inventé vous-même, je suis sûr.
Non, il est. Non, j'irai pas jusque-là. Non, ce mot est écrit sur le rocher qui sert d'appui à Ugolin, mais on ne sait absolument pas si c'est un titre qui vient de Rodin ou pas.
J'ai eu l'impression que Rodin négligeait un peu les titres et que les titres qu'il avait pour ses sculptures, en général, étaient donnés par les hasards des conversations, les amis qui passaient, les poètes.
Oui, c'est quelque chose d'assez fréquent chez lui. C'est assez fréquent que les titres viennent aussi des aides de l'atelier. L'homme qui marche, par exemple, c'est comme ça que ses assistants dans l'atelier l'appelaient. Ah oui, c'est l'homme qui marche, puis c'est devenu son titre.
Ils étaient nombreux dans l'atelier ?
On dit que vers 1900, il a eu jusqu'à 50 assistants à Meudon.
Et assistantes, j'imagine.
Aussi.
Et donc, si vous dites que le titre a pu être donné par les uns et les autres, est-ce que ça veut dire que la sculpture ne représente rien ? D'autres qu'elle-même, évidemment.
C'est toujours plus compliqué que ça avec Rodin. Parce que.
Éclairez-moi.
On avait tout à l'heure ce très beau passage d'Heidegger où il disait que finalement c'était donner figure à l'invisible. Et il y a cette revendication chez Rodin. Je ne veux pas seulement représenter l'extérieur des figures de l'être humain, mais je veux représenter la vérité intérieure.
Ouais.
Qu'est-ce que c'était que la vérité intérieure pour lui, on ne sait pas trop.
Non, mais c'est vrai que ça peut être la tension, le désespoir, l'animalité, le désir.
C'est en tout cas toujours lié aux passions humaines. Je ne pense pas que ça ait une signification religieuse au sens strict du terme, mais il y avait certainement quand même chez Rodin une préoccupation spirituelle. Et c'est vrai que quand on voit cette tête émerger du drapé et embrasser cette sorte de fantôme qui monte, c'est extrêmement poétique. Parce que sur tout cela, il a rajouté un immense drap, en fait c'est un drap, qu'il a enduit de plâtre. Et donc on a cette masse, selon le côté par lequel on arrive, on ne sait pas très bien ce qu'on voit. Par certains côtés, on voit une espèce de dôme de tissu enduit de plâtre. Et puis de l'autre côté, on a ce mouvement presque tendre de la figure qui se penche pour embrasser cet être presque avorton qui monte devant elle.
Mais ça pourrait être une vierge accueillant une âme, ça pourrait être...
Oui, y a quelque chose de très... Là aussi, chez lui, c'est le spectateur qui doit faire le reste du voyage. Donc,
pour l'émission, ça va bien.
Ça va très bien.
C'est tout à fait dans notre sujet. Et il y a deux socles, me semble-t-il, ou pas ?
Non, il a monté ça sur un bâti de bois. Et il a entouré le bâti de bois d'un tissu. Alors évidemment, le tissu était complètement détruit.
Donc vous l'avez
refait.
Il restait
des lambeaux, donc on a remis un tissu récent.
parce que j'avais vu des photos, mais c'était pendant la restauration où j'avais l'impression qu'il y avait une sorte de petit escabeau.
Ah oui, non, mais ça, c'était pour les besoins du chantier de restauration.
On pourrait dire, oui, c'était temporaire. Et dites-moi, ce tissu jeté sur le personnage, c'est un petit peu la même chose lorsqu'il a jeté un tissu pour faire la robe de chambre du Balzac, non?
Oui, c'est un peu la même idée, sauf que là, c'est du vrai tissu. Alors, il y a d'autres œuvres dans lesquelles on trouve du tissu enduit de plâtre dans les œuvres de Rodin. C'est pas du tout un unicum, il y a pas mal d'exemples. Simplement, c'est peut-être l'exemple le plus important en dimension, en taille. Pour la robe de chambre de Balzac, il y a deux versions, en fait. Il y a deux étapes. C'est-à-dire que, d'une part, on a un récit de François Pompon qui dit qu'il voit Rodin prendre sa pelisse, la tremper dans le plâtre.
François Pompon, c'est un grand sculpteur qui a été son assistant.
Oui, qui était son praticien pour le marbre, notamment. Ouais. Et donc, il dit qu'il voit Rodin plonger ce vêtement dans un baquet de plâtre et puis le draper sur un mannequin. Mais ensuite, ce vêtement enduit de plâtre a séché et Rodin l'a fait mouler. Là aussi, parce que c'est un objet évidemment très fragile. Et il voulait pouvoir le manipuler et le combiner avec la figure nue de Balzac qu'il avait élaborée. Donc il l'a fait remouler et d'ailleurs cet objet moulé est présent dans l'exposition aussi du Grand Palais.
Et dans l'exposition dont nous parlons, dans l'œuvre dont nous parlons, pardon, l'Absolution, j'ai lu qu'il aurait pu y avoir un intérêt de Rodin au fait que ce tissu puisse se balancer ou être balancé par le vent.
Alors, je pense qu'il n'aurait pas été contre, mais ça me paraît plus difficile parce que d'abord c'est extrêmement fragile, donc on ne peut pas évidemment le mettre dehors. Et d'autre part...
Là, vous l'avez installé sous verre pour l'exposition?
Oui, c'est vraiment d'une fragilité absolument...
Ça ne voyagera jamais.
Ça ne voyagera jamais.
Donc c'est une occasion unique de le voir.
Oui. Alors, j'espère qu'on pourra ensuite le présenter à Meudon, dans la salle des plâtres, mais pas en continu à cause de l'existence de ce tissu qui ne supporte pas la lumière en continu.
Est-ce qu'il y a une relation, est-ce qu'on pourrait faire, ou est-ce que c'est absurde, ou c'est un jeu d'historien d'art, de faire une relation, au moins visuelle, entre ce tissu qui accompagne cette sculpture et la robe de la petite danseuse de Degas, ce fameux bronze, cette fameuse cire, puis bronze, avec un vrai tutu
posé dessus. C'est à la fois la même idée et le contraire, c'est-à-dire que c'est la même idée dans la mesure où, effectivement, Rodin utilise un vrai tissu. Mais c'est le contraire dans la mesure où, quand Degas utilise le tissu, il l'utilise vraiment comme un vrai vêtement illusionniste, pour ses capacités illusionnistes. Alors que Rodin ne l'utilise pas du tout pour cela, mais pour sa capacité formelle, en fait, pour envelopper l'ensemble d'une espèce d'irréalité, finalement.
Oui, une sorte d'irréalité, puis aussi, c'est extrêmement élégant en même temps, ce plissé. Hein, il aurait pu être fait par Saint-Laurent, par exemple.
C'est très beau, c'est très poétique.
Très poétique. Et ça correspond peut-être à ce qu'il dit dans le texte qu'on entendait tout à l'heure, quand il dit « J'ai fait couvrir de linge les parties défectueuses des statues antiques, je cache ce qui est laid pour mieux admirer ce qui est beau ». C'est un peu ça aussi, non?
Oui, c'est le tissu qui est à la fois quelque chose qui cache et qui révèle, et puis il devient forme en soi. Et il y a ce qui émerge de la partie cachée. C'est ça qui est très beau dans cette
œuvre. Dans la tradition de la peinture et de la sculpture de la Renaissance à Rodin, si je puis dire, le drapé est toujours l'expression de la puissance des sentiments. C'est-à-dire l'esprit qui souffle pour représenter un poète avec un immense drapé, c'est le cas d'ailleurs du Rodin, mais de beaucoup de choses, au contraire de l'élan sensuel qui couvre à peine les formes, ou alors il y a un peu de ça dans cette bonté de la personne qui se penche pour accueillir l'enfant ou l'autre qui approche.
Oui, tout à fait. On peut penser aux pleurants du tombeau de
Suter,
les ducs de Bourgogne. On peut penser à beaucoup de choses ou plus près de Rodin, de Rude, qui a aussi fait des choses drapées qui sont étonnantes. Et il y a cette idée que le vêtement, c'est l'écorce ultime, finalement, mais le mouvement qui anime cette écorce, elle révèle l'intérieur, donc elle révèle bien l'invisible.
Oui, je trouve que sur cette sculpture en particulier, on le sent très fortement.
Oui.
Que c'est une expression, c'est l'expression du souffle ou de l'esprit, ou de l'état d'esprit comme ça qui se manifeste.
Oui, et ce qui est particulier dans cette œuvre-là, c'est qu'on est vers la fin de la vie de Rodin, donc on a des formes beaucoup plus apaisées, et ça n'est pas la douleur, ça n'est pas la passion, ça n'est pas la souffrance, etc. Mais Il y a cette expression...
Enfin, de la vie, vous exagérez, hein, il lui reste encore quand même 17 ans à vivre,
ouais.
Ça va.
Hein. De création, pas tant que ça.
De création, pas 17 ans de création. Non, il a arrêté, à votre avis, il a arrêté de créer quand?
Vers 14, c'est terminé, vers et même 14. Un peu avant en fait. Les dernières très très grandes œuvres, c'est 1907, 1908.
Alors là, nous sommes en 1900. Ouais. Ces dernières œuvres, 1907, pour vous donner, chers auditeurs, une sorte de comparaison, 1907, c'est la date des Demoiselles d'Avignon. C'est toujours très surprenant de voir les rencontres. Et 1917 date de sa mort, c'est aussi la mort de Degas, c'est aussi la révolution russe, c'est aussi Lissitzky, Malevitch, le suprématisme. Il y a toujours un choc comme ça, incroyable, de temporalité quand on regarde une œuvre.
Ah oui, c'est étonnant.
Et Rodin, quand, par exemple, ce travail sur le tissu, il est comparable à d'autres travaux de sculpteurs de l'époque ou il est le seul à se lancer dans cette aventure?
Le tissu, ça fait partie du quotidien des ateliers, hein, ne serait-ce que pour couvrir les terres déjà. Ensuite, c'est un moyen technique, quelquefois, de gagner du temps. Par exemple, quand il a des plâtres, des bustes en plâtre qu'il doit traduire en marbre, et puis ça lui va pas bien, il a fait tirer son plâtre, mais il voudrait un peu plus de volume là, etc. Alors il met des petits clous sur les épaules, par exemple, et puis il met un drapé, mais un drapé qui n'est pas là pour évoquer un drapé qui est là juste pour dire au praticien, attention, là, il faudra donner un peu plus de volume. Donc il y a une utilisation extrêmement technique, et puis, comme toujours chez Rodin, il prend des techniques qui sont des techniques d'atelier pour gagner du temps, parce que dans un atelier, il faut aller vite, les matériaux sèchent,
oui,
il faut faire venir... Il y a de l'urgence.
Parce que quand les matériaux sèchent, d'ailleurs, je me souviens de souvenirs où il en parle, les fragments tombent, il y a un bras qui tombe, une tête qui tombe...
J'ai perdu de sculptures dans ma jeunesse parce que je n'avais pas de quoi entretenir, etc. Donc, il faut aller vite, donc il prend un procédé qui est là... comme vraiment un procédé, mais un procédé caché, un procédé qu'on ne doit pas voir à la fin. Et lui, il renverse les choses, il le montre et il l'affirme comme un choix esthétique.
Il y a quelque chose quand même qui est très frappant chez Rodin, d'ailleurs en général, c'est que tout ce qui normalement est de l'ordre de l'assemblage est donc dissimulé comme un artifice, chez lui, est au contraire montré. Dans la sculpture que vous nous présentez, qui est si incroyable, je dois dire, l'absence de liaison entre la tête et le corps n'a pas du tout été masquée. Et pourquoi ces sutures si apparentes? Qu'est-ce que ça veut dire?
Je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, il y a le désir de se dégager, quoi qu'il en dise, hein, parce qu'il dit qu'il veut être fidèle à la nature, même servile, etc. Évidemment, c'est faux.
Mais ça fait partie de sa légende, puisque le début de sa légende, c'est d'avoir été si fidèle à la nature qu'on pensait qu'il avait moulé directement
c'est
les
vrai,
personnages.
C'est vrai.
Je sais plus pour quelle sculpture
pour
c'était, l'âge des reins.
En 77. Mais en fait, il y a.
C'était un scandale. Ça avait été une partie.
Ça avait été l'occasion aussi de se révéler au public pour lui en réussissant à prouver que non, il n'avait rien moulé du tout. Mais je pense que c'est peut-être aussi un événement qui l'a amené à réfléchir et à affirmer très vite que finalement, si le sculpteur voulait exprimer, il devait exagérer. Il ne pouvait pas s'en tenir à la nature stricto sensu, il devait exagérer. Et effectivement, quand vous regardez par exemple les bourgeois de Calais, quand vous regardez tous ces grands monuments, vous voyez des pieds absolument monstrueux, des mains un peu disproportionnées, des têtes... avec des orbites enfoncées, des muscles. Le Balzac, il a une tête de monstre, ce Balzac. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'il a été refusé. Autre scandale, plutôt à la fin de la carrière.
Donc, ça l'a bien blessé, cette affaire.
Oui, ça l'a beaucoup blessé. Mais c'est cette manière d'exagérer et d'affirmer que l'œuvre n'est pas... le but de l'œuvre n'est pas illusionniste. Voilà. Le but de l'œuvre, c'est autre chose. C'est une vie des formes. On parlait de flux tout à l'heure. Et puis, il y a tout simplement aussi le fait que petit à petit, il intègre... c'est quelqu'un qui aime que la sculpture vive. Et donc, il garde toutes les marques. Les marques du travail, mais aussi les marques d'accident. Les marques de vieillissement. Quand il récupère un petit torse complètement détérioré dans l'atelier et qu'il l'agrandit plus grand que nature et qu'il en fait le torse de l'homme qui marche, il y a cette idée que l'œuvre doit vivre et doit garder les marques de son histoire.
Il avait fait un voyage en Italie, je crois, au début de sa carrière, qui a été, je suppose, impressionnant pour lui, où il avait pu voir les Michel-Ange. Est-ce que c'est Michel-Ange, la leçon de Michel-Ange, les esclaves de Michel-Ange qui est là?
Ah, Michel-Ange, il y a deux leçons pour lui, c'est l'Antique et Michel-Ange. Et Michel-Ange l'a bouleversé. Michel-Ange, lui a déterminé une grande partie de ses idées, de ses formes, le choix du non finito, par exemple, le choix de montrer cette lutte entre finalement les formes modelées et la matière, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez lui. Et puis la leçon de l'antique, c'est la leçon du fragment.
Oui, parce qu'on a découvert l'antique par morceaux, et chaque morceau était digne d'admiration, au fond, c'est de ça. Façon équivalente. Catherine, je vous propose d'écouter de nouveau un texte de l'ami de Rodin, et d'écrivain et ami de Rodin, Rilke. Écoutons-le.
Il ne prend pas pour point de départ les figures qui s'étreignent. Il n'a pas de modèle qu'il dispose et groupe. Il commence par les endroits où le contact est le plus étroit, comme au point culminant de l'œuvre. Là où quelque chose de nouveau se produit, il entame son travail et consacre tout le savoir de son instrument aux apparitions mystérieuses qui accompagnent la naissance d'une chose nouvelle. Il travaille en quelque sorte à la lumière des éclairs qui jaillissent de ses points et ne voit que celles des parties du corps entier qui sont éclairées. Le charme du grand groupe de la jeune fille et de l'homme, qui se nomme le baiser, tient à cette sage et juste répartition de la vie. On a le sentiment que, de toutes ces surfaces de contact, des vagues pénètrent dans les corps, des frissons de beauté, de pressentiment et de force. De là vient que l'on croit voir la félicité de ce baiser sur toute l'étendue de ses corps. Il est comme un soleil qui se lève et sa lumière est répandue partout. Rainer Maria Rilke, 1903.
Vous êtes sur France Culture, nous écoutons Rilke qui parle de Rodin parce que vous écoutez vous-même Les Regardeurs et je suis avec Catherine Chevillot, la directrice du musée Rodin qui nous a décrit et commenté cette œuvre extraordinaire, Absolution, que vous avez installée, Catherine, à la place du baiser. Ça veut dire que cette œuvre est votre nouvelle star. Vous avez créé une nouvelle star qui apparaît pour la première fois dans le corpus de Rodin.
Ouais, c'est un grand privilège de pouvoir révéler un Rodin 100 ans après sa mort. C'est quand même une histoire assez incroyable. Et il se trouve qu'effectivement, le baiser est déplacé au Grand Palais pour la durée de l'exposition du centenaire. Et donc, dans cette salle, nous avons sorti un certain nombre de plâtres, d'expérimentations de Rodin, qui sont peu visibles, voire complètement inédits, comme celle-ci, en pendant à l'exposition Kiefer, qui est à la présentation de Kiefer dans la salle d'exposition temporaire.
Anselm Kiefer, immense artiste que nos auditeurs connaissent bien, c'est bien entendu avec Rodin ? Ça a été, ils ont été amis ? Dans cette aventure que vous leur avez proposée.
Oui. J'ai fait visiter l'exposition au directeur de la galerie Gagosian de Londres, qui ne connaissait pas du tout le musée, qui ne l'avait pas vu après la rénovation. Et donc il a visité l'hôtel Biron. Et puis là, il m'a dit « Ah, mais je comprends maintenant pourquoi vous avez fait travailler Anselm sur Rodin. C'est comme si un ami parlait à un ami. » Voilà. J'ai trouvé que c'était une très belle phrase et qui résumait bien les consonances en fait qui sont apparues.
Et comme vous me parlez d'amitié, je ne peux pas ne pas vous interroger sur ce lien entre le grand poète Rainer Maria Rilke dont on vient d'entendre une phrase et Rodin. Quel est leur comment se sont-ils rencontrés? Quelle complicité avaient-ils?
Avec Rilke.
Oui.
Rilke a été le secrétaire de Rodin pendant quelques années.
C'est quelle période ça à peu près?
Je dirais dans les années 90.
D'accord. C'est le grand Rodin, la grande époque du Rodin.
C'est la grande époque. Et puis ensuite, ils se sont séparés, mais Rilke a toujours gardé une grande révérence pour Rodin. Et c'est lui, par exemple, qui lui a fait découvrir l'hôtel Biron à Paris. parce que cet hôtel
qui
était...
Qui est aujourd'hui le siège du musée.
Voilà, c'est maintenant le musée. Mais au XIXe siècle, il avait été abandonné, délaissé involontairement par une congrégation religieuse qui a dû quitter les lieux après la loi sur les congrégations religieuses. Et donc, l'hôtel a été mis en location par petits morceaux. Et Rilke a trouvé, a loué une pièce dans cet hôtel. Il y a une très belle lettre où il dit « Monsieur Rodin, vous devriez venir voir cet endroit extraordinaire que j'ai trouvé. Je suis installé depuis ce matin. Je vois les lapins gambader dans le jardin depuis ma fenêtre, etc. » D'ailleurs, il y a toujours plein de lapins au musée Rodin. C'est grâce à lui donc que Rodin vient voir. Il est subjugué par l'endroit. Le jardin est complètement à l'abandon. C'est une espèce de forêt vierge. Et il loue trois pièces. Et puis petit à petit, il occupe finalement tout l'hôtel. Et c'est avec cette proposition de donation que l'État, finalement, achète l'hôtel et accepte d'en faire le musée Rodin.
Avec les lapins.
Avec les lapins compris.
Et vous avez choisi lapin, plate-bande, ou ça cohabite à peu près ?
Écoutez, ça a l'air de cohabiter pas plus mal.
Dites-moi simplement un mot sur absolution. Peut-être que vous pouvez nous dire ce que ça veut dire, d'ailleurs, absolution.
Alors, absolution, dans la foi chrétienne, c'est le pardon, le pardon de
c'est un sacrement du
péché,
du pardon,
c'est le sacrement du pardon qui est donné de la part de Dieu. Et là, on ne sait pas très bien si on est dans une acception chrétienne, dans une acception un peu panthéiste, mais toujours est-il qu'on voit que le sens y est, puisqu'on a cette figure drapée. Est-ce que c'est un ange? Est-ce qu'on ne sait pas très bien? Est-ce que c'est la sagesse? Est-ce que voilà, qui se penche dans un mouvement très très miséricordieux comme ça, très très doux, très apaisé sur cette
on dirait une âme
cette
qui monte.
Forme. Hein, oui, on dirait un peu une âme comme dans les tympans de cathédrale.
Moi, je pensais à Autun à
oui,
cause de ça,
fait.
Parce que ça évoque.
Cette figure un peu raide comme ça, qui a la tête penchée en plus, comme dans un signe de contrition, de regret.
Et qui en fait n'a pas de tête.
Si, il y a une tête.
Ah oui,
mais, alors, une tête, mais qui est complètement cachée et qui est. Presque informe. Ça, c'est la terre. À l'origine, il s'agit de la terre. C'est une figure horizontale qui s'arrache comme ça à un monticule de terre. Et la jambe, une des jambes, est complètement cassée. Et c'est un exemple type de ce dont on parlait tout à l'heure. Rodin qui garde tous les stigmates.
Ça ne le gêne absolument pas.
Donc la terre a été cassée dans la cuisson. Il la moule comme ça et il la grandit comme ça.
Et ça va très bien. Ça va très bien. Comme j'ai l'impression que c'est une figure qui pourrait être au fronton d'une cathédrale, justement, puisque vous en parliez, il y a un lien entre Rodin et l'art gothique. Il a beaucoup aimé ça, j'ai l'impression.
Ah oui, énorme, énorme.
Ça, d'où ça vient ? Ça a commencé à Beauvais, non, me semble-t-il ?
Ça a commencé dans ses notes prises dans toutes les, alors les, pas seulement les cathédrales, mais beaucoup d'édifices de la fin du Moyen-Âge et du début de la Renaissance française. Il a accumulé des notes comme cela, et puis il les a rassemblées pour un livre qui est paru en 1914, qui s'appelle « Les cathédrales de France ». Et c'est de là qu'est partie cette idée de faire travailler Kiefer, en fait. Au départ, je cherchais simplement un artiste pour réillustrer ce livre sur les cathédrales. Et puis je trouvais pas. Puis finalement, un jour, on m'a dit Kiefer est dans les réserves à Meudon. Je l'ai croisé, j'en ai parlé, puis c'est parti comme ça. Et pour Rodin, l'art gothique, c'est quelque chose de fondamental parce que pour lui, le bâtiment gothique, la logique gothique, évoque pour lui l'entremêlement entre sculpture et nature. Et on voit bien effectivement tout le parallèle qu'on peut faire entre l'art gothique et puis le végétal.
Oui, parce que les colonnes deviennent les fûts d'une forêt, les végétaux gonflent tous les chapiteaux, et selon les périodes, c'est un automne ou un printemps qui arrive, ou des bourgeons qui sont là. Et effectivement, il y a un souvenir de la nature naturante.
Et alors, il va même jusqu'à comparer l'architecture gothique et la figure humaine, en se disant, mais finalement, tout ça, c'est la même chose, il y a cette ossature, et puis il y a la vie. Il y a la vie qui fait végéter tout cela. Et c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui l'a beaucoup impressionné. Il a même fait des dessins que nous présentons dans l'exposition, des dessins de figures féminines dont il tire en fait des proportions de moulures. Donc il y a ce mélange architecture et figure humaine qui est très présente. Et on le retrouve chez Kiefer, enfin, dans le travail qu'il a fait pour l'exposition.
Alors,
en tout cas,
des différences entre Kiefer peut-être et Rodin, c'est que Kiefer est un artiste extraordinairement érudit, un lecteur. Et Rodin n'était pas un intellectuel.
Non, pas du tout.
Quel est sa...
C'est un mauvais élève,
je crois.
C'est quelqu'un qui est issu d'un milieu très modeste déjà. Ouais, hein, ouais. C'était pas des gens très pauvres, mais enfin c'était des gens modestes. Son père était un petit employé. Sa compagne Rose Beret, la compagne de toute sa vie, qu'il épouse à la fin de quelques mois avant sa mort.
Qu'il a épousée quand elle avait 19 ans. Ouais.
Était lingère.
Enfin, j'ai dit une bêtise, pardon, je me reprends parce qu'il l'a épousée juste
avant sa propre mort.
Mais il a vécu avec elle depuis qu'elle avait 19 ans. Ouais.
C'est ça. Il est effectivement pas très bon à l'école. On dit qu'il rate 3 fois le concours de l'école des Beaux-Arts. On n'en a pas vraiment de preuves, mais il le dit lui-même, donc ça doit être vrai.
Et il a fait une école qui aujourd'hui s'appellerait l'école des arts décoratifs, non ?
C'est ça. Il a fait la petite école, mais comme beaucoup de très grands sculpteurs du 19e siècle, Carpeaux a fait la petite école. Le grand sculpteur du Second Empire.
Oui.
Voilà. Donc il fait cette école. Et cette école, elle a une particularité. C'est que tout l'enseignement repose sur la mémoire visuelle. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a du dessin sur le modèle, mais la manière de dessiner fait qu'on regarde. Ce qui est prégnant, c'est justement le regard. Là aussi, ça colle bien avec votre émission.
Chance.
Le regard et la mémoire. Et ça l'a énormément marqué parce que ensuite, par exemple, lorsqu'il pratique le dessin à partir des années 90, on dit qu'il fait évoluer ses modèles, il leur demande pas de prendre des pauses et il dessine sans regarder sa feuille. Il ne regarde que le modèle, mais pas la feuille. Ce qui fait qu'on a quelquefois des dessins un peu erratiques. On voit le crayon qui sort un peu de la page, etc.
Ça veut dire que le dessin n'est qu'une réaction du corps à la vue.
C'est ça.
On peut dire qu'être voyeur, c'est ça.
Oui, d'ailleurs, il y a une phrase assez rigolote de Rodin que j'ai placée comme une citation dans l'exposition au Grand Palais. Il dit « Je sais pourquoi mes dessins sont si réussis, c'est qu'entre la main et le papier, j'ai supprimé le talent.
» C'est quand même assez joli. J'adore ça. Ça veut dire que je trouve que c'est une phrase très très importante parce que c'est un moment où le désir d'obéir au canon de l'académie, de réussir la sculpture est beaucoup moins important que le sentiment intérieur que la vision procure.
C'est ça, tout à fait Rodin, ça.
Ça, c'est extraordinaire. Et je pense que pour l'époque, c'était une leçon, parce que même l'extraordinaire Carpeaux, qui pour moi est un sculpteur de premier ordre, n'allait pas aussi loin dans la liberté par rapport à l'académie.
Ah non, ça, Rodin est un... D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'il a été si adulé par les jeunes artistes. Rodin est quelqu'un qui vraiment est reconnu par tous comme celui qui a libéré la sculpture. Les critiques et les jeunes artistes disaient qu'il a rendu la vie à la sculpture.
Alors, il faut que vous nous parliez de cela, mais encore quelques mots sur Rodin, lecteur, puisqu'on dit que c'est un mauvais élève, etc., et c'est pas un intellectuel. Mais il y a une relation avec Baudelaire, par exemple, une relation mentale.
Alors, on peut pas dire que ce n'est pas un lecteur, quand même. Il lit des choses, mais il lit des choses précises. On lui a donné énormément de livres, par exemple, on a une partie de sa bibliothèque. Alors, on se dit, ah tiens, il y a un livre d'un tel. Oui, sauf que les pages ne sont pas coupées.
Mais il faut faire attention pour les thésards, ceux qui sont en train de faire un mémoire. Faites gaffe, il ne faut pas que regarder le dos du livre.
Mais il y a des livres dont il est familier, auxquels il revient sans cesse. Il dit lui-même qu'il a vécu avec la comédie de Dante dans la poche pendant des années. On sait qu'il a effectivement beaucoup aimé Baudelaire, que Baudelaire a été même une source d'inspiration importante, y compris pour sa Porte de l'Enfer. Il l'a illustré même. Donc, il y a des choses comme ça qu'il dit. Par exemple, il y a une correspondance avec une dame dans laquelle il parle de lecture de Nietzsche qu'ils ont fait chacun. Donc, on sait qu'il en a lu un peu.
Alors, je vous propose, puisque vous parlez de Nietzsche, d'écouter un Nietzschéen d'aujourd'hui, un auteur d'aujourd'hui que vous connaissez tous très bien. Un texte donc récent de Philippe Solers à propos de la Porte de l'Enfer de Rodin.
Comment traverser la mort en envoyant son siècle en enfer? Ou encore, comment nier les forces d'agrégation et de désagrégation qui sont dans le temps comme si elles étaient le temps, alors qu'elles n'en sont que les grimaces, les convulsions transitoires, la crise négative opposée à l'éternité physique? Vous qui entrez ici, sachez que la pensée peut répondre. Elle a l'air de se tasser, de s'assombrir, de s'appesantir. Elle prend même la forme abrupte et rébarbative d'un chimpanzé concentré rugueux. mais en réalité, elle troue, trie, discerne. Elle pèse et dissout les figurants de la pièce. Elle tient son cerveau dans sa main. Elle pense. Donc, elle façonne immédiatement son penseur et l'objet qu'il pense. Philippe Solers, 1992.
Vous écoutez l'émission Les Regardeurs et je suis avec Catherine Chevillot, la directrice du musée Rodin, et nous poursuivons notre exploration rodinienne. Je ne sais pas si ça se dit.
Rodinesque, ça se dit rodinienne.
Rodinienne, c'est mieux que rodinesque, non?
Oui.
Oui, c'est mieux. Et tout ça est parti d'une admirable sculpture découverte au fond et révélée en tout cas il y a quelques heures, je devrais dire. Donc, est visible au musée Rodin qui s'appelle
Absolution.
Absolution. Et qui est un extraordinaire assemblage. Et alors nous avons dérivé pendant cette émission, de cette émission à Rodin en général. Et il y a une question que je voulais vous poser, Catherine Chevillot. Rodin, à l'époque, a été aimé tout de suite, détesté tout de suite, suivi par tous les artistes, haï. Comment ça s'est passé? Quel est l'accueil de Rodin?
Alors, il y a des étapes. D'abord, il a mis beaucoup de temps à percer, à se faire connaître, puisque le scandale de l'âge des reins dont nous parlions tout à l'heure, 1877, il a déjà 40 ans, en fait. Il a vécu pendant pas mal d'années comme tâcheron sur des chantiers ou dans des ateliers d'art décoratif.
Ça lui a donné aussi une maîtrise technique hallucinante, parce qu'il a été un assistant éprouvé sur des tas de réalisations.
Ah oui, il connaît bien toutes les techniques et c'est surtout un fantastique modeleur. Et ça, c'est ses capacités de modeleur qui ont beaucoup plu, par exemple à la manufacture de Sèvres, qui l'a fait travailler, etc. Et donc, une fois qu'il commence à être un petit peu connu, qu'il obtient quelques commandes, notamment la commande de la Porte de l'Enfer en 1880, il commence à avoir une certaine aura. Et puis, 10 ans plus tard, à partir de 1890, là, c'est vraiment devenu un très grand artiste connu du monde entier, de l'Europe entière en tout cas. Et il commence
à
voir...
À cause de la Porte de l'Enfer.
À cause de la Porte de l'Enfer.
Parce qu'il la termine en 1890 à peu près.
Oui, mais alors il ne l'expose jamais, mais on en parle. C'est un peu l'Arlésienne. Et bien surtout, il a pas mal de clientèle privée et il fait une exposition en 89 à la Galerie Georges Petit avec Monet. Donc cette exposition Monet-Rodin, c'est une étape importante aussi pour sa reconnaissance. Et à partir de 1890, il a des expositions dans toute l'Europe, y compris de sculpture, mais aussi de dessin.
Et aux États-Unis, Philadelphie, je crois me souvenir.
Et puis alors, petit à petit, après 1900, il y a cette fameuse exposition personnelle qu'il fait en marge de l'exposition universelle, dont on a parlé tout à l'heure, cette exposition du pavillon de l'Alma. Et alors là, c'est devenu une star. C'est-à-dire, on vient de l'Europe entière à Paris, et les jeunes sculpteurs qui viennent tous à Paris, ils font le voyage à Meudon
et
pour
ça,
rencontrer...
Ça ne le ralentit pas du tout dans son travail. Il n'y a pas... au fond... Il ne travaille pas moins parce qu'il est une star, il ne travaille pas...
Ce qu'on peut dire, c'est qu'à partir de 95-1900, il change un peu de façon de travailler et il travaille de plus en plus par le moyen de l'assemblage. Ça, c'est quelque chose qui se systématise, en fait, à ce moment-là. Par exemple, on lui demande une sculpture pour une scène d'opéra, eh bien, il va chercher une œuvre qu'il a déjà faite et il l'agrandit à 2 mètres de haut. Donc, il travaille comme ça, par agrandissement, par assemblage,
par combinaison. Est-ce qu'on peut dire, parce que entre 1880, si je me trompe dans mes dates, corrigez-moi, entre 1880 et 90, il se consacre follement à sa Porte de l'Enfer.
Porte de l'Enfer, les bourgeois de Calais.
Et est-ce que,
donc, Victor Hugo.
Là où je voulais en venir, c'est, est-ce que, il y a un nombre de figures, je ne sais pas, vous devez le savoir exactement, mais il y a un nombre de figures considérables dans cette Porte de l'Enfer. Il y a un vocabulaire inouï dont il va se servir des fragments. Est-ce qu'on peut dire que la Porte de l'Enfer va rester pendant longtemps l'atelier de Rodin, d'une certaine façon, comme l'atelier dans lequel il puise?
Ah oui, bien sûr, la Porte de l'Enfer, c'est une espèce de gisement énorme qu'il exploite pendant des décennies. Le baiser, il a son origine dans la Porte de l'Enfer. Le penseur aussi. Tous ces groupes ont d'abord été modelés en petit format pour la Porte de l'Enfer. Et puis ensuite, elles y sont restées ou non. Le penseur y est resté, mais le baiser en est sorti, il n'y est plus.
Penseur a changé de sens.
Le penseur a changé de sens. Donc, il y a énormément d'œuvres qui viennent de la porte, puis qui ensuite, nous on les appelle les évadés de la porte, entre nous, dans notre jargon.
Ah, c'est beau,
parce
j'aime bien.
Elles ont elles ont acquis une vie indépendante finalement et quelquefois ont été agrandies de taille monumentale.
Donc c'est effectivement un gisement, on peut le considérer comme ça. Et alors, est-ce qu'il y a eu dans l'atelier de Rodin des assistants qui sont devenus des très grands sculpteurs ?
Il y en a eu plusieurs. Alors, il y a pas mal d'artistes qui ont été des bons sculpteurs au 19e siècle. Puis, il y a quelques artistes comme Bourdelle, par exemple, qui est vraiment devenu un très, très grand artiste et qui a, je dirais, fait le pont entre Rodin et puis une génération plus tard. C'est-à-dire qu'il y a les jeunes artistes qui arrivent juste quand Rodin commence à vieillir, à décliner. Très souvent, ils ont eu une petite période rodinienne, puis ensuite, ils ont fait le contraire. Je pense à Brancusi, par exemple.
Alors, Brancusi, qu'est-ce qui s'est passé entre Brancusi et Rodin ? Quelque chose ? Ils se sont dit bonjour ? Ils se sont salués ?
Ah, ils se sont connus, puisqu'on a la preuve maintenant que Brancusi a passé 3 mois dans l'atelier de Rodin.
Ça, c'est quand même...
auprès de lui. Il a une période qui est complètement... où il fait du Rodin. Hein. Au Grand Palais, il y a le sommeil de Rodin, le sommeil de Brancusi. On voit très bien...
Il y a le baiser de Rodin, le baiser de Brancusi, même si cette fois-ci,
vocabulaire. C'est un autre langage. Tandis que le sommeil de Brancusi, c'est vraiment le langage de Rodin. C'est un contraste entre un visage très nuancé, très poli, et puis un bloc de marbre à peine dégrossi. Et Brancusi, comme beaucoup de jeunes artistes à ce moment-là, comme Mayol, comme Archipenko, comme... Gaudier-Bresca, ils sont à la recherche de quelque chose de nouveau pour l'esthétique de leur époque. Et donc, très rapidement, ils se détournent de Rodin, ils sentent qu'il faut aller ailleurs, et Brancusi a cette fameuse phrase « Il ne pousse rien à l'ombre des grands arbres, donc allons pousser ailleurs
!» Et effectivement, il va trouver, avec des méthodes semblables, assemblage, l'utilisation du socle, comme Rodin l'avait fait en 1900, il va trouver un autre vocabulaire, mais en gardant la méthode.
C'est ça. Il garde les idées, mais il change le vocabulaire et la facture. Tandis que Bourdelle, il a toujours conservé cette esthétique un peu expressive, expressionniste. Et c'est un peu la continuité entre la génération de Rodin et la génération de Giacometti et Germaine Richier.
Alors, il y a un personnage on ne va pas en reparler parce que tous nos auditeurs la connaissent bien et à juste titre, c'est Camille Claudel. Mais allons plutôt vers Germaine Richier. Vous pouvez dire un mot de qui est Germaine Richier parce que tous ne le savent pas.
Germaine Richier, c'est une élève de Bourdelle. On l'oublie très souvent. C'est une femme sculpteur qui a commencé à travailler à la fin des années 30 et qui a été surtout très importante et très connue dans les années 50-60. Malheureusement, un peu oubliée en France aujourd'hui.
Oui, mais grande, très importante.
Et qui a fait qui a devancé César, qui a devancé Louise Bourgeois, n'en parlons pas, etc. Avec des espèces de figures semi-imaginaires, semi-monstrueuses, des araignées, des vampires.
Et quelques scandales, je pense au Christ d'Assis, par exemple.
Oui, tout à fait.
Qui est donc un Christ qu'elle avait réalisé et qui a été jugé offensant. Sublime.
Oui.
Et alors je trouve que à la limite de l'offense, dans l'exposition du Grand Palais, il y a la Marie-Madeleine se jetant sur la croix. Je trouve ça extraordinaire,
c'est
merveilleux, savoureux, mais c'est d'une provocation.
C'est très provocant.
Je ne sais pas s'il a osé la montrer en 1905. Je suppose qu'à cette époque-là,
elle était tout à fait montrée puisqu'il en a taillé 2 marbres qui ont été acquis.
Par l'Église,
par les collectionneurs.
Je pense.
Ah non, ça je ne pense pas.
C'est une Marie-Madeleine lascive qui se précipite sur le corps du Christ croix, comme un monstre nécrophile.
C'est d'une sensualité hallucinante. Presque dérangeante.
Très troublante, très extrême.
C'est très curieux. Il y a quelques œuvres comme ça chez Rodin. Il y a cette Marie-Madeleine dont on montre au Grand Palais le modèle en plâtre et un des marbres qui a été élaboré. Et puis, il y a alors dans l'expo Kiefer Rodin une sculpture qui s'appelle l'Ecclésiaste. C'est en fait le moulage d'un livre avec dessus une femme nue, les jambes en l'air. Donc c'est clairement une allusion à la Bible, mais là aussi très provocatrice.
Ça donne l'impression d'être plus Cantique des Cantiques que Ecclésiaste.
Oui, hein? C'est vrai.
Justement, Rodin et la religion, parce que tout à l'heure vous avez parlé de sa spiritualité qui est évidente, c'est un panthéiste.
Ouais. Oui, c'est un panthéiste.
Et religieux ?
Alors, religieusement, il avait une relation quand même au départ assez forte avec la religion, puisque quand sa sœur chérie est morte, il avait un tel chagrin qu'il a voulu entrer dans les ordres. Heureusement, le père supérieur de la congrégation lui a dit que c'était une mauvaise raison et qu'il ferait mieux de retourner sculpter.
Heureusement pour nous, ouais, vraiment.
Heureusement pour nous. C'est d'ailleurs un des tout premiers bustes que Rodin a fait. Il a fait le buste de ce père, le père Aymar. Ensuite, on ne sait pas trop... Enfin, il avait certainement aucun goût pour la religion au sens strict du terme. En revanche, il avait un goût pour peut-être une certaine foi, je ne sais pas, mais en tout cas un goût pour la spiritualité. Les gens sont toujours très étonnés à Meudon lorsque nous avons visité la maison, dans sa chambre. Il y a un immense Christ espagnol qui fait 1m50 de haut, qui est à côté du lit, qui est très très impressionnant. Et voilà, on n'imagine pas cette préoccupation-là.
Et alors, il y a un autre monstre que vous avez installé cette fois-ci, et qui n'est pas Kiefer, pardon Anselm, mais que vous avez installé au Grand Palais, qui est Picasso.
Oui.
Et vous avez associé aux figures de Rodin, qui sont les figures qui sortent d'un bol, comme on en a parlé tout à l'heure, bizarre liaison comme ça, au verre d'absinthe de Picasso.
Et oui, parce que c'est différent dans la mesure où ces assemblages avec des pots antiques n'ont peut-être pas été exposés par Rodin de son vivant, en tout cas on ne sait pas trop, mais ce qui me frappait, c'était comment finalement ça n'était pas si différent que ça dans l'idée, puisque Rodin prend un pot qui n'est pas fait par lui, mais qui devient la partie d'une de ses œuvres. Picasso achète une vraie cuillère d'absinthe dans le commerce et elle devient partie d'une de ses œuvres. Donc c'est quand même bien le même saut intellectuel qui est fait là. Et ce qui me fascine, c'est pas tellement de pouvoir dire un jour que Rodin a influencé Picasso, parce que c'est pas ça le problème.
On ne sait rien là-dessus d'ailleurs.
On sait que Picasso était marqué au début plutôt par les œuvres modelées de Rodin. On le sait dans Le Fou, on le sait par les notes qu'il a prises aussi dans l'expo de 1900, etc. Mais là, ce qui m'intéressait, c'était de montrer comment le chemin qu'a fait l'art depuis les avant-gardes nous permet de nous retourner sur l'œuvre de Rodin et là encore d'y découvrir des choses qu'on ne connaissait pas.
Ce que je trouve formidable dans l'exposition que vous avez fait, Catherine Chevillot, au Grand Palais, c'est que c'est un Rodin au présent. C'est oui. Comment on le regarde aujourd'hui. Et c'est fou, comme vous nous avez montré, qu'on pouvait le regarder tellement différemment d'autrefois et à quel point il nous était présent sur les techniques, la pensée, la liberté et l'influence qu'il peut avoir sur les artistes aujourd'hui. Merci infiniment, Catherine Chevillot.
Merci à vous.
Je crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
C'était Les Regardeurs en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, nous avons observé la sculpture nommée Absolution, et puis nous avons dérivé d'ailleurs. Absolution, réalisée évidemment par Auguste Rodin vers 1900. Pour en parler, nous étions en compagnie de la directrice du musée Rodin, Catherine Chevillot. Merci infiniment, Catherine. Vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques évoquées pendant l'émission sur le site franceculture.fr. Attaché d'émission et site internet, Sylvia Favre. Lecture des textes, Johanna Nizar. À la technique, Pascal Bénard. Réalisation, comme d'habitude, merci Franck Lilin. Les Regardeurs, une émission de Jean de Loisy et Sandra Adam.
Il faut toujours faire la différence entre ce que désigne une chose et l'idée que l'on a de cette chose.